Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous du commentaire de la Paracha par Harold Avraham Weil, grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Bonjour, monsieur grand rabbin.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Écoutez, ça va.
La femme, les enfants, la petite fille,
tout le monde va bien.
Ah, Baruch Hashem.
Baruch Hashem.
On va lire cette semaine la paracha de Vayetse, l'allumage des bougies à 16h22 et demain la fin du Shabbat à 17h32. Ces horaires sont uniquement valables pour Strasbourg et sa région. Notons tout de même que les Shabbats vont encore un peu commencer plus tôt dans les semaines qui viennent.
Ne nous angoissez pas, Jean.
Voilà,
le temps est suffisamment maussade comme ça.
Oui. Comme chaque semaine, on souhaite évidemment un refouage chez les mains à tous les malades et un Shabbat Shalom, et en particulier à nos aînés et aux personnes isolées. On voulait faire un petit Shabbat Shalom particulier à nos jeunes auditeurs qui s'appellent Julien. Je lui ai promis de dire bonjour et de citer Shabbat Shalom. C'est chose faite, Julien. Bon Shabbat à toi. On peut
souhaiter aussi un grand Mazal Tov à mon papa. Je ne lui ai jamais fait de dédicace à ce micro.
Ah.
Parce que Parashat Vayetse, c'est sa Parashat Bar Mitzvah.
Comme mon neveu.
Et il va fêter dans quelques jours ses 80 ans. Donc c'est quelque chose qui...
Jusqu'à 120 ans, si Dieu veut.
Jusqu'à 120 ans en bonne santé. Et donc je lui souhaite vraiment un grand Mazal Tov pour son Shabbat Bar Mitzvah et pour son anniversaire dans quelques jours.
Bon, c'est le Shabbat Bar Mitzvah de mon neveu aussi, qui a fêté... c'est 20 ans dans quelques jours. Juste avant, on voudrait dire des petits messages, notamment à la famille Selam pour le décès de leur sœur, du grand rabbin.
Oui, tout à fait. On a eu l'occasion de les accompagner cette semaine pour le décès donc, de leur sœur, Zohara Zelkin, qui est nifteret en Eretz Israël. Et on souhaite voilà, tous nos voeux de Nechama à la famille, ainsi qu'à la famille Blum, pour le décès de leur maman, Madame Danielle Blum.
Voilà, évidemment, on a toute sympathie à leur famille éprouvée. On peut pas parler tout de suite de la paracha, parce qu'il y a une actualité qui est évidemment intéressante aujourd'hui. On espère, parce qu'on ne sait jamais dans ces négociations, qu'à 16h, les otages seront libérés. Moi, je voudrais avoir votre avis. Évidemment, pour les familles, c'est extraordinaire. C'est un soulagement. Mais beaucoup de gens en Israël et en France, on va dire, sont contre cet accord. Vous, c'est quoi votre sentiment en tant que grand rabbin ?
C'est d'être un donneur de leçons. Je ne suis pas géopoliticien. Je ne suis pas tacticien. Je ne suis pas, comme j'ai dit, un spécialiste, un moumré, comme on dit en Israël, de toutes les négociations militaires. Moi, j'aimerais dire à tous ceux qui ont toujours de bons conseils que c'est facile d'avoir des conseils lorsqu'on n'est pas dans la situation des personnes qui sont concernées. Mettez-vous à la place de toutes ces familles qui attendent un, deux, voire plusieurs otages. Je vous rappelle qu'il y a des familles entières qui ont été prises en otage, ce qui veut dire que dans certaines familles, on a des papas, des mamans, des grands-mères qui n'attendent non pas un membre de leur famille, mais plusieurs membres de leur famille qui ne dorment pas depuis maintenant cette semaine. Et donc je crois que c'est vraiment à la lumière de tout cela qu'il faut un petit peu analyser la situation, être très très humble et vraiment très, très modeste, prendre de la hauteur lorsque l'on veut exprimer son point de vue par rapport à ces situations. Alors oui, parfois l'émotion, la passion peut faire dire des choses ou donner de grands conseils. Je peux vous assurer que je n'aimerais pas du tout être à la place... Du cabinet de sécurité israélien lorsqu'il est confronté à ces questions, lorsqu'on doit accepter ou non, sous certaines conditions, définir les conditions de cette libération. Bien sûr, ce que l'on souhaite maintenant, que cet accord a été entériné, qu'il a été quand même accepté par une large partie du cabinet de sécurité israélien, et dont je rappelle, dont certains n'étaient a priori au départ pas du tout dans cette ligne de cet accord. Et de négociations, et qui ont quand même été convaincus par cet accord. Voilà, ce qu'on souhaite maintenant, qu'il est entériné, c'est que ces otages puissent effectivement rentrer dans de bonnes conditions. Bien sûr, on ne souhaite pas simplement qu'ils rentrent, mais on espère qu'ils sont dans de bonnes conditions physiques, bien sûr, autant que faire se peut, parce que voilà, on imagine que cette semaine d'enfer, enfin, on n'imagine même pas, en réalité, on dit des phrases banales, mais on ne peut même pas imaginer, à mon avis, l'horreur absolue endurée pendant tous ces jours, où on ne sait pas si on va passer la fin de la journée, on ne sait pas si on va revoir ses proches. Et puis, je rappelle que pour un grand nombre de ces otages, ils ne savent absolument pas ce qu'il est advenu du reste de leur famille, et l'horreur absolue, c'est que pour certains, il n'y a plus de famille, ils ont été massacrés, et ils ne le savent pas, donc il va falloir les rassurer par rapport à ce retour après ces semaines d'enfer, et dans un deuxième temps, leur annoncer que parfois ils sont les seuls survivants de leur famille.
Donc vous êtes plutôt d'accord pour cet échange ?
Moi, Jean, je suis pragmatique, voilà, je ne suis pas un donneur de leçons, j'essaie de ne pas être un donneur de leçons, je peux avoir une opinion sur ce que je pense être, on va dire, pertinent ou pas pertinent, mais je pense que dans un sujet aussi complexe, il faut laisser faire les experts, et encore une fois, je pense que c'est très très facile dans son salon, à distance, à 4000 km, de donner des conseils, mais lorsqu'on est à la place des parents qui font ils campent littéralement devant les différents ministères israéliens pour obtenir la libération de ces otages et qui ne rêvent que de cela. Enfin, vraiment, j'essaie un peu même d'enjoliver la situation, mais la situation est tellement affreuse. Ces gens-là, bien sûr, ne dorment plus. Et donc, je pense qu'il faut avoir, je le répète, beaucoup d'humilité et voilà, laisser faire les experts. De toute façon, voilà, ce n'est pas à nous de décider. Donc, c'est bien beau de demander les avis de chacun, mais on a des personnes qui sont là pour prendre ce genre de décision. Et donc, plutôt que de, je pense, d'épiloguer l'infini, il vaut mieux se concentrer maintenant sur le sujet, encore une fois, en espérant, bien sûr, que ça n'impacte pas la sécurité d'Israël dans les semaines à venir.
Voilà, on pense également aux 200 autres otages qui sont toujours retenus à Gaza. Un autre sujet important dans l'actualité, c'est le décès de Thomas à Sepol. C'est un sujet qui doit un peu vous interpeller quand même, un enfant de 16 ans qui se fait poignarder.
On est véritablement dans un ensauvagement de notre société, c'est plus vraiment une surprise, et bien sûr, on ne peut que être atterré de voir qu'aujourd'hui, dans notre société, qui pourtant a été présentée comme une société extrêmement évoluée, extrêmement même en avance sur son temps, on puisse perdre la vie pour ce genre de broutilles, et c'est en tout cas extrêmement inquiétant.
On va passer à la paracha de la semaine. Paracha va être avec le résumé. Résumé assez long, parce que la paracha est assez longue.
La paracha est longue, elle est complexe, elle est technique.
C'est
pas une paracha facile, hein, Jean, pour un Baal Koré, pour un lecteur, c'est pas une paracha facile. La fin de la paracha de Vaïtse, je peux vous le dire en tant que Baal Koré, que ce n'est pas la paracha la plus facile de la Torah. Elle est assez longue. Elle est écrite en plus d'un seul bloc. C'est une caractéristique tout à fait particulière, assez inédite de cette paracha de Vaïtse par rapport à toute la Torah. Paracha Stouma, c'est-à-dire que c'est une paracha dans laquelle il n'y a pas d'espace. D'accord. Du début à la fin, du premier mot de Vaïtse jusqu'à la fin. Il n'y a à aucun moment d'espace dans le texte. Elle est écrite en un seul bloc. Et donc, lorsqu'en plus le texte n'est pas aéré, ça rend le travail du Baal Koré d'autant plus difficile. Alors, je rappelle que cette paracha de Vaïtse, elle est la suite vraiment immédiate de la paracha Toldot, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein, vous le savez, parfois on passe d'une sidra à une autre, on change complètement de sujet. Là, on est en plein dans le sujet. On s'est arrêté sur un moment de suspense dans la paracha de Toldot la semaine dernière. Yaakov est exfiltré, hein, je vous rappelle un petit peu le contexte. Yaakov a été exfiltré par ses parents. Et donc, il va quitter son domicile, il va quitter Eretz Israël pour se rendre à Haran, chez son oncle, pour échapper à la vindicte de son frère Esav, qui a juré de le tuer une fois que ses parents auront quitté ce monde. Et donc Yaakov s'enfuit, et le début de la paracha, c'est un moment toujours particulier et très important, puisqu'il va nous raconter ce fameux rêve de Yaakov. Yaakov va s'arrêter en route, nous le savons par tradition, on va revenir dessus. Il s'arrête en réalité à l'endroit sur lequel sera construit le temple, Beth Amikdash, les temples de Jérusalem. Et donc Yaakov va avoir ce fameux rêve de l'échelle, c'est le début de notre paracha. Puis il arrive à Haran, chez son oncle, et c'est de ce passage-là que va nous parler tout le reste de la paracha. Cette période de vie, ces 20 ans extrêmement complexes que Yaakov va devoir passer chez un homme qui est fourbe, un homme qui est mal intentionné, Et Yaakov a essayé tant bien que mal de déjouer les plans de Lavan, de rester intègre, hein, ce qui est toujours très difficile lorsqu'on est chez quelqu'un qui n'est pas intègre. Et donc, en fait, bien, on va nous parler de toute cette période de vie où Yaakov va se marier avec Rachel, avec Léa, avec leurs servantes également respectives. Nous allons assister dans cette paracha à la naissance de 12 enfants de Yaakov sur les 13, puisque seul Binyamin naîtra dans la paracha de la semaine prochaine. Et à la fin de cette histoire, eh bien, Yaakov s'enfuit. Il parvient finalement à s'enfuir de chez Lavan. Là aussi, tant bien que mal, il est rattrapé par Lavan. Et c'est sur un pacte, en quelque sorte, scellé entre les deux que s'achèvera cette paracha avant. La semaine prochaine, nous n'assistions à la rencontre, à haut risque, entre Yaakov et son frère Esav.
Au risque est pourtant un peu plus calme que ce qu'on pourrait prévoir. Alors, je le dis d'avance, il y a beaucoup de thèmes, on peut parler de beaucoup de thèmes dans cette paracha, mais le temps nous invite à aller très en dessus de ce qu'on voulait évoquer. On va commencer donc par le rêve. Ce fameux rêve que Yaakov fait en allant vers Haran. Et dans ce rêve, il y a plusieurs explications qui sont données. On parle en disant que c'est l'endroit où du Mont Sinaï et donc de la Torah. On parle des quatre empires. On parle de l'importance de la terre. Et enfin, on parle des anges liés au statut de Yaakov. Ça fait 4 propositions. Elles sont toutes bonnes.
Alors, il y a beaucoup d'explications. Si vous prenez Abravanel, qui est vraiment un des très grands commentateurs de la Torah, alors Abravanel lui propose 8 explications de ce rêve. En réalité, il y a presque une infinité d'explications dans ce rêve, qui est clairement une prophétie. Hein. Je rappelle que tout ce Sefer Bereshit, tout ce livre de Bereshit, s'inscrit sous le slogan de Maaseh Avot Siman Labanim, hein, les actions des pères sont des balises pour les enfants. Et étant donné qu'on a affaire ici aux 3 bâtisseurs du peuple d'Israël, hein, les 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, avec les 4 matriarches, eh bien, c'est toute l'histoire du peuple d'Israël sur toutes les années à venir qui se dessine au travers des actions de ces patriarches. Et donc dans ce rêve de Yaakov, il y a en réalité des éléments extrêmement prophétiques, extrêmement importants pour les enfants. Alors, il dit le lieu déjà, ce lieu n'est pas anodin, c'est Hamakom, et le Hamakom, ce lieu en particulier, comme nous le savons, l'endroit sur lequel seront construits les 2 temples. Il faut comprendre, et c'est un petit peu comme cela que le Abravanel va finalement proposer sa propre explication, en partant du principe qu'en réalité, la vision qui est celle de Yaakov au travers de ce rêve, c'est une remarque que fait le Abravanel, c'est une vision qu'auraient pu avoir Abraham et Yitzhak. Elle n'est pas propre à Yaakov. Ce sont des informations sur le futur du peuple d'Israël, mais qui ne sont pas liées a priori lorsqu'on lit les premières explications que propose le Abravanel, et même ces explications concernant les empires, elles ne sont pas directement liées à Yaakov. Ce sont des informations générales sur ce que va être amené à vivre le peuple d'Israël, traverser les différents exils. Et ce n'est pas propre à Yaakov, même si...
Yaakov ne comprend pas très bien les rêves. Il
tout à fait, même si il a quand même clairement compris ce qui lui arrive en se réveillant. Et il va le dire, Manora, Makomazé, etc. Donc Yaakov a compris les messages qui lui sont transmis dans ce rêve. Mais je le disais, même si Yaakov, et nous le savons, est un petit peu le symbole de la galoute, de l'exil, puisque Yitzhak, son père Yitzhak, qui est un personnage a priori beaucoup plus effacé, en tout cas dont on nous parle beaucoup moins dans la Torah, lui est resté toute sa vie en Eretz Israël. Yaakov, c'est le symbole de celui qui sort en exil, qui sort vers la galoute, mais avec cette assurance de la protection. Et je me permets donc de retranscrire un petit peu l'idée du Abravanel, qui nous dit que si c'est à Yaakov que va être faite cette révélation, et qu'elle n'a pas été faite ni à Abraham, ni à Yitzhak, c'est parce que Yaakov, au moment où il quitte le foyer de ses parents, est dans une vulnérabilité extrême. Yaakov sort sans rien, vraiment sans le sou. Il est, on l'a dit, à ce moment-là, dans une période de grande fragilité, puisque son frère Esav veut le tuer, donc il est poursuivi, il est pourchassé. Yaakov, il le sait, se rend dans un milieu qui lui sera extrêmement hostile. Hein. Yaakov sait exactement où il met les pieds. Ce n'est pas pour rien que, d'après nos maîtres, il y a une période de 14 ans d'études que Yaakov s'est imposé dans la yeshiva de Shem et Ever, parce qu'il a compris que quitter directement le foyer familial pour aller chez Lavan, sans prendre ce temps d'études, c'est-à-dire s'armer spirituellement pour résister à la fourberie de Lavan, eh bien c'est un échec qui est j'ai envie de dire, signé d'avance, et donc Yaakov ne le veut pas, Yaakov ne le souhaite pas, et donc Yaakov se prépare spirituellement. Donc vous voyez que Yaakov a compris où il va, mais en même temps, eh bien, Yaakov a besoin d'être rassuré. C'est ce que Kadosh Baruch Hu va faire dans ce rêve, c'est le rassurer, c'est lui dire a priori, là tu quittes ta famille, tu as l'air toi-même d'être dans une position presque de non-retour finalement, de tout perdre, de te rendre dans un milieu dans lequel tu risques malheureusement de ne jamais ressortir. Yaakov sait qu'il y a un danger, il y a un risque d'être totalement avalé par la vanne, et c'est avec ce, au travers de ce rêve qu'Akadosh Baruch Hu va le rassurer en lui disant mais tu sais ce qui t'arrive à toi en réalité et ce qui va arriver à tes enfants, et de la même manière que je te protégerai, eh bien je protégerai aussi les générations suivantes lorsqu'elles se retrouveront dans des situations similaires à la tienne.
Il y a un autre sentiment de Yaakov, c'est le fait qu'il va pendant 14 ans, enfin, en tout cas plus que ça, de ne pas faire qui vous avez aimé. On sait que c'est quelque chose qui le travaille, entre guillemets.
Bien, ça fait partie de sa vulnérabilité, elle sera rappelée au début de la parasha de Vayishlach, où Yaakov, lorsqu'il a peur, il a peur en réalité par le manque justement de ces mitzvot, ces deux grands commandements qui sont celui d'habiter en Eretz Israël, et c'est aussi un peu le sens de ce rêve. Hein, ouais. On le dit, les anges qui montent et qui descendent, je le rappelle d'après nos maîtres, ce sont les anges d'Eretz Israël qui remontent, parce que Yaakov est en train de quitter d'Eretz Israël, et les anges qui descendent, ce sont les malachim qui sont propres à Chutz La'aretz, et qui nous rappellent bien qu'il y a une différence, il y a une différence fondamentale entre ces lieux de vie, et le fait de quitter Eretz Israël, pour Yaakov, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Yaakov sait qu'en quittant Eretz Israël, il se met dans une, se place dans une, malgré lui, hein, dans une certaine forme de fragilité. Ça, couplé au fait, comme vous l'avez rappelé, Jean, qu'il ne pourra pas honorer ses parents comme il se doit pendant toutes ces années. Ce qu'Esav, lui, va pouvoir continuer à faire, à la fois continuer à habiter en Eretz Israël, mais à la fois continuer à honorer ses parents d'une manière remarquable, puisqu'on le sait, Esav s'est vraiment distingué plus que toute autre personne dans cette tâche. Et Yaakov craindra dans la paracha de la semaine prochaine que ces deux mitzvot qu'il n'a pas pu accomplir lui fassent défaut, et qu'elle lui porte préjudice dans la guerre qu'il mènera contre Esav.
On va passer très vite, et on voulait parler de la rencontre entre Rachel et Yaakov, encore une fois, devant un puits qui prouve que l'eau a vraiment une signification particulière dans la Torah.
L'eau, c'est la Torah, Jean. L'eau, c'est la Torah. On peut quand même en dire un mot, même si on ne va pas jusqu'au bout de la paracha, c'est pas grave. Cette rencontre, elle est extrêmement importante, vous l'avez rappelé. Elle se fait devant un puits. Enfin, on a beaucoup d'éléments qu'on a l'habitude de rencontrer tout au long de ce Sefer Bereshit, et même un peu plus tard.
On a l'impression que c'est la copie pratiquement
exacte. Oui, on reverra beaucoup. Moshe Rabbeinu aussi rencontrera sa femme dans le Sefer Shemot, dans la première paracha du livre de Shemot. Il rencontrera aussi sa femme Tzipora devant un puits. On a aussi des bergers, on a aussi une dispute. Donc, il y a des éléments qui sont bien sûr ici extrêmement semblables, similaires, et qui nous interpellent. Et il y a bien sûr dans la notion de ce puits, le puits c'est l'eau, le puits c'est également l'effort que l'on fait pour aller puiser l'eau, même si on le sait que ce soit avec la Rachel, comme c'était le cas aussi avec Rivka, et bien l'eau montait de manière un petit peu miraculeuse d'elle-même, mais il y a cet effort, et d'ailleurs on le verra que lorsque Rivka va se mettre finalement à puiser après pour les chameaux, eh bien elle va devoir faire l'effort, parce que c'est ça tout le sens aussi de l'engagement dans le chesed, c'est de produire un effort. Donc on n'a rien sans rien, l'eau elle se trouve en dessous de la terre, elle est dans une certaine profondeur, il faut aller la chercher. Mais lorsqu'on est capable de faire cet effort et d'aller chercher les ressources les plus profondes qui existent en nous, c'est aussi cela, hein, le symbole de ce puits et de cette eau profonde, c'est Mayim Chaim, ce sont ces ressources qui existent parfois au plus profond de nous, qui sont parfois un petit peu cachées et masquées par autre chose. Ça peut être une grosse pierre qu'on a du mal à bouger. Vous le voyez, Yaakov lui-même a réussi finalement à déplacer cette pierre que d'autres n'ont pas réussi à déplacer, et ça me fait penser à quelque chose, c'est que parfois, on espère que les autres vont faire le travail à notre place, mais la grosse pierre qui obstrue Jean, notre propre puits, personne ne pourra la déplacer à notre place. Vous pouvez prendre 100 personnes, 200 personnes, parfois ces 200 personnes sont dans l'incapacité totale d'enlever cette pierre et de libérer ce puits. Ça veut dire en revanche, moi tout seul, si je me prends en main, je suis capable de libérer ce puits et de laisser jaillir cette eau.
Ça veut dire qu'on ne peut compter que sur soi-même.
On ne peut compter que sur soi-même. Im en anili, mili, si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi ? C'est bien sûr important de comprendre que chacun doit assumer ses responsabilités dans la vie et que ma propre vie, mon propre projet de vie, personne ne pourra le vivre à ma place.
Je voudrais arriver à cette histoire, donc il rencontre Lavan. D'ailleurs, Lavan lui fait comprendre que c'est bien de l'avoir accueilli, mais il faut bosser, hein, il faut travailler.
C'est bien, après d'avoir parlé du puits, on parle de Lavan.
Voilà. Et je voudrais revenir sur la réaction, la non-réaction de Yaakov. La vanne lui a fait des fourberies énormes, il a été fourbe, il a été pas honnête, etc. Et on a l'impression que Yaakov...
C'est un escroc, hein, même si le mot escroc est une qualification pénale, on peut le dire, voilà, sur la vanne, nous ne risquons rien.
Genre. Mais je comprends pas la réaction de Yaakov, on a l'impression qu'il ne réagit pas, qu'il
n'a pas de réaction. Yaakov n'a pas de réaction naïve, et j'en veux pour preuve que lorsque Yaakov va demander la main de Rachel, si vous lisez le texte, Jean, ce n'est pas Lavanne qui fait la proposition de travailler pendant 7 ans, mais c'est une proposition qui émane de Yaakov. Ouais. C'est intéressant. Nous, dans l'imaginaire populaire, on imagine toujours que c'est Lavanne qui, dès le début, va imposer ses 7 années de travail à Yaakov, dans l'espoir, bien sûr, de l'arnaquer au bout de ses 7 ans, de lui donner Léa, parce que Yaakov Lavanne a déjà tout prévu. Mais vous remarquerez dans le texte qu'en réalité, c'est Yaakov lui-même qui propose spontanément de travailler 7 années, alors que Lavanne ne s'est même pas encore exprimé. Et donc on voit que Yaakov voyait dans la nécessité de se préparer à ce mariage quelque chose qui était important dans sa construction personnelle. Yaakov a compris que le mariage n'est pas simplement une rencontre sur un coup de foudre, sur quelqu'un qui trouve grâce à nos yeux, mais que le mariage, c'est quelque chose qui se prépare. Il faut se préparer soi-même, il faut préparer le terrain, il faut être...
7 ans.
Il y a surtout que Yaakov a parfaitement compris, il l'a vu, bien sûr, par prophétie, il le sait, c'est lui qui va être amené à construire le clan d'Israël, à donner naissance à ses 12 tribus. Et donc Yaakov comprend cette responsabilité et la charge de cette responsabilité. Donc Yaakov ne veut pas faire les choses n'importe comment, donc il s'y prépare, il y aura ces 7 années, les 7 années supplémentaires, où là aussi Yaakov reste extrêmement calme, je trouve, pour quelqu'un qui a été victime issu d'une escroquerie, parce qu'en réalité Yaakov...
J'ai l'impression qu'il est trop calme.
Yaakov est une grande sagesse, Yaakov a compris que la construction du clan d'Israël, elle passe par toutes ces épreuves, et c'est aussi le sens, j'ai beaucoup développé cette idée cette semaine dans différentes interventions, dans différents... moment où j'ai dû prendre la parole et où je rappelais que le fait que cette paracha soit stouma, c'est-à-dire qu'elle soit écrite d'un seul bloc, c'est pour nous dire que parfois, la sagesse dans la vie, c'est de ne pas analyser tous les événements que nous vivons de manière séparée, mais d'être capable d'avoir un regard qui est beaucoup plus global, de prendre un peu de hauteur sur ce qui nous arrive, et c'est ce que Yaakov va faire. Cette paracha, si elle est écrite d'un seul, bloc...
Il lui ment pour Rachel, il ment pour Léa, il lui ment pour...
Mais Yaakov a une approche.
Et à aucun moment.
Yaakov a une approche de la vie.
Il n'y a aucun moment où il réagit de façon, on va dire, énergique.
Jean, vous êtes pire que Jean-Pierre Elkabbach, vous ne me laissez pas répondre.
D'accord, alors je vous écoute.
Je disais que Yaakov a compris que pour construire le clan d'Israël, il va devoir se confronter à certaines épreuves. Ça fait partie du projet, finalement. Être capable de se confronter à toutes ces épreuves, mais de regarder les choses, finalement, à la fin, après ces 20 ans, et de ne pas les regarder uniquement après les 7 premières années, ou la deuxième série de 7 ans, et de se dire, quoi, je vais encore devoir travailler encore 6 années supplémentaires, Lavanne va encore me changer mon contrat de travail. Je rappelle que durant ces 20 années, Lavanne va changer le contrat de Yaakov 100 fois, donc c'est quelque chose de totalement inimaginable, c'est-à-dire que plus d'une fois par mois, les conditions de travail changeaient pour Yaakov, et pourtant Yaakov accepte, il accepte jusqu'à un certain point. Il y a un point de non-retour où Yaakov va décider de partir, et je vous rappelle, Yaakov, il s'enfuit à ce moment-là, il part pas Beyadrama, il y a quand même quelque chose qui fait que Yaakov n'est pas non plus naïf, comme vous le suggériez, Jean, au point de dire, ben non, je vais encore rester jusqu'à ce que vraiment Lavanne m'ouvre la porte et me demande de lui-même de partir. Non, Yaakov a compris qu'il doit rester, qu'il doit attendre aussi la naissance de Yosef. Il y a aussi le rite de la naissance de ses enfants qui est extrêmement important, on n'en parle pas suffisamment, mais Yaakov a compris que ça fait aussi partie du schéma. Et Yaakov sait que Yosef sera un personnage extrêmement important dans l'histoire du clan d'Israël, que une partie de la Yeshua passera aussi par lui, et donc il doit attendre aussi la naissance de Yosef. Mais il y a un point de non-retour, ce point de non-retour, c'est lorsqu'il voit, et le verset nous le dira, que le visage de Lavan n'est plus Kitmol Shilshom, qu'il a littéralement changé. Et lorsque vous avez un dirigeant, le Chafetz Chaim dit quelque chose de très très beau là-dessus, lorsque ce n'est plus forcément les gens dans la rue ou l'opinion publique qui tourne, mais celle du dirigeant qui vous montre un visage hostile, là, il y a un danger. Vous savez, on m'interroge souvent sur la montée de l'antisémitisme, les comparaisons, etc., avec les années 30. Encore une fois, je ne suis pas devin, et je pense que, bien sûr, tous les mauvais signaux qui sont envoyés par l'antisémitisme, lorsqu'il provient seulement d'une partie, d'une petite partie de la population, on doit s'en inquiéter, on doit le combattre de manière extrêmement ferme, et ça doit être un signal et une alerte pour nous. Mais à partir du moment où le visage au niveau de la figure étatique n'a pas encore changé, là, je pense qu'on est, on n'est pas dans la même configuration que celle qu'on a pu connaître dans le passé. Et ce que Yaakov voit avec la vanne, c'est qu'au niveau vraiment de l'État, de la gouvernance, là, le visage est devenu hostile. Il faut partir à ce moment-là.
On va faire un grand saut. On va passer sur une question que j'avais sur la relation entre...
Vous avez beaucoup de questions.
Oui, la relation entre les sœurs et les servantes, qui sont quand même les matriarches. Il y a une phrase qui m'a interrogé dans la Torah qui a été remarquée, c'est qu'on dit que Yaakov a demandé l'autorisation à ses épouses avant de partir. Ça me semblait évident, non ? C'est-à-dire qu'il faut toujours demander à ses épouses avant de faire...
Premièrement, Yaakov est quelqu'un de respectable. On peut imaginer, au travers de la lecture de cette histoire,
ça
se passe de manière désordonnée, que parfois les choses sont faites de manière justement...
Si ça semble évident, c'est pas obligé d'être noté.
Et cela souligne aussi, à mon sens, la grande harmonie qui existait dans cette famille. Parce que vous savez, cette parasha de Vayetse, elle nous met face à des choses extrêmement complexes. Il y a des mots très forts qui sont utilisés par la Torah. Je vous rappelle, Vatekane Rachel. Rachel nous dit, le verset a été éprise de jalousie vis-à-vis de sa sœur. Et c'est des choses très difficiles à comprendre. Comment Rachel, qui est un modèle pour nous d'intégrité, un modèle de bonne vertu, comment est-ce que Rachel peut éprouver de la jalousie vis-à-vis de sa sœur, d'autant plus que c'est parfaitement contradictoire, que nous le savons, au moment où Rachel finalement a été échangée avec Léa après les 7 premières années de travail de Yaakov, eh bien, nous le savons, selon nos maîtres qui nous l'enseignent, Rachel à ce moment-là a parfaitement joué le jeu, et c'est elle qui a donné à sa sœur Léa, par amour pour sa sœur Léa qui était son aînée, qui lui a transmis les simanim, les fameux codes qu'elle devait transmettre à Yaakov pour s'identifier. Donc vous voyez que Rachel a priori prend énormément soin de sa sœur, qu'elle la respecte. Comment est-ce qu'elle a pu éprouver de la jalousie pour elle? C'est quelque chose qui nous met très très mal à l'aise. En réalité, c'était de la jalousie positive, ce qu'on appelle kinat sofrim, c'est-à-dire que c'est pas ici une jalousie qui met en concurrence deux personnes, mais c'est la volonté pour Rachel de faire également partie d'un projet. Rachel voit sa sœur qui a des enfants, elle n'est pas jalouse de la naissance de ses enfants, elle a simplement aussi envie de prendre part à ce projet magnifique. Et si on nous dit à la fin, justement, qu'il demande conseil à ses épouses, c'est pour nous montrer l'harmonie qui existe.
Ouais. Il demande l'autorisation à ses femmes.
Tout à fait, mais ça nous montre l'harmonie. Tout à fait, mais c'est l'harmonie qui existe aussi dans cette famille. C'est vraiment aussi important de le souligner.
Voilà, fin de cette émission. Merci, monsieur Grand Rabbin. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu veut. Merci à Thomas pour la réalisation technique. Shabbat shalom à vous tous.
Shabbat shalom.